Les Haïda de l'archipel des îles de la Reine Charlotte, ou Haïda Gwaï, en Colombie-Britannique, ont fabriqué, dès les tout premiers contacts avec les Européens, des objets destinés à la traite, notamment des masques sculptés dans un style réaliste, représentant des visages de femmes avec des labrés, ornements qui suscitaient des réactions à la fois de curiosité et de répugnance chez les voyageurs et les traiteurs à la fin du XVIIIe siècle. Dès les années 1820-1830, les artistes locaux ont commencé de sculpter des pipes en argilite au décor complexe mettant en scène des personnages de la mythologie. C'est un tel objet dont Lévi-Strauss fait l'acquisition en 1939 au retour de son deuxième séjour au Brésil. L'achat de cette pipe vaut indice de l'intérêt que le spécialiste des sociétés sud-amérindiennes va porter au peuple de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Ainsi qu'il nous l'explique, je cite, « Mon intérêt pour ces Indiens remonte à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Je ne connaissais guère cet art, écrit Lévi-Strauss, que par des reproductions et par quelques pièces que possédait déjà le Musée de l'Homme. Je me souviens alors être tombé en arrêt sur les quais devant le magasin de Level à cause d'une pipe en argilite. J'ai donc acheté cette pipe que j'adorais. Et quand, pendant la guerre, j'étais amené à quitter la France et à émigrer aux États-Unis, une de mes premières visites a été pour l'American Museum of Natural History, qui, à cette époque, avait une fabuleuse collection de la côte nord-ouest. Fasciné par les masques, les maséraldiques et autres objets exposés dans la galerie de la côte nord-ouest, dénommée aussi Salle Boas, Lévi-Strauss a passé des heures à s'imprégner de l'atmosphère sereine de ce lieu habité par des petits êtres qui sollicitaient l'attention du public. Conçu au début du XXe siècle par Franz Boas, le grand spécialiste de la côte nord-ouest, la salle réaménagée à plusieurs reprises, enrichie d'une série de fresques dépeignant des scènes de la vie traditionnelle et de l'installation d'un canot Haïda armé d'un équipage, n'en conservait pas moins l'esprit de son concepteur. Il suffit à cet égard de rappeler les premières phrases d'un des plus beaux textes de Lévi-Strauss, publié en 1943, texte qui, dans un langage poétique, teinté de subjectivité toute surréaliste, exprime son émerveillement. Je cite, « Il est à New York, un lieu magique, où les rêves de l'enfance se sont donné rendez-vous, où des troncs séculaires chantent et parlent, où des objets indéfinissables guettent le visiteur avec l'anxieuse fixité des visages, où des animaux d'une gentillesse surhumaine joignent comme des mains leurs petites pattes, priant pour le privilège de construire à l'élu le palais du castor, de lui servir de guide au royaume des phoques, ou de lui enseigner dans un baiser mystique le langage de la grenouille et, ou du martin pêcheur. » Fin de citation. Ce texte témoigne en effet du rapport affectif que Lévi-Strauss entretient avec l'art de la côte nord-ouest, un art qu'il a élevé au rang des plus grands. Mais au-delà de sa sensibilité, de l'expression de sa sensibilité, l'article rencontre des liens intellectuels qui le rattachent aux cultures de cette région. Un demi-siècle plus tard, lors d'un colloque sur l'anthropologie de la côte nord-ouest organisé en son honneur au Collège de France en juin 2000 par Michael Larkin, Sergei Kahn et moi-même, Lévi-Strauss a pris soin de rappeler, et je cite, « Les peuples qui résident sur la côte pacifique du Nord-Ouest depuis des millénaires, leurs institutions sociales et leur art ont tenu une place essentielle dans ma réflexion théorique et je leur dois de profondes émotions esthétiques. » Déjà, dans le premier article de 43, apparaissent les thèmes qui vont jalonner la mise en œuvre d'une anthropologie structurale. Un deuxième article, le dédoublement de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique, est issu des cours que Lévi-Strauss dispense à l'École libre des hautes études à New York. Publié dans Renaissance en 1944-45, cet article propose d'appliquer la méthode de l'analyse structurale des formes pour comprendre comment des sociétés qui n'ont eu aucun contact entre elles dans le temps et l'espace ont recours à l'utilisation d'un même procédé stylistique. Notons au passage que cette formulation méthodologique correspond au premier moment de la mise en œuvre du structuralisme et à son application à la parenté et à l'alliance. La méthode structurale sera ensuite étendue à l'analyse des mythes à partir de 1955, si l'on considère que l'article, la structure des mythes, en donne le point de départ. Dès lors, va se nouer un rapport paradigmatique entre, avec ces deux articles, donc, va se nouer un rapport paradigmatique entre l'ethnographie de la côte nord-ouest et l'analyse structurale. Rédigé et publié à New York, ces deux textes programmatiques donnent le coup d'envoi à une vaste exploration des systèmes de représentation et des institutions de la côte nord-ouest, des arts visuels, de la mythologie et de la conception de l'histoire. Considérons Le sorcier et sa magie, en 1949, qui met en scène un chaman Kwakwaka'wakw ou Kwakiutl et s'interroge sur les conditions de l'efficacité symbolique. La geste d'Asdival, sur laquelle je vais revenir, un texte sur lequel je vais revenir, qui a été publié en 1858 et qui analyse un mythe Tsimshan et ses variantes, ou La voix des masques, publié en 1975 et qui est augmenté de 3 excursions, dont une sur l'organisation sociale des Kwakiutl. Ensuite, 3 articles publiés entre 1973 et 1982 sont regroupés en un chapitre, Le milieu et ses représentations dans le regard éloigné, qui a été publié en 1983. Alors, il s'agit donc des articles suivants, de la possibilité mythique à l'existence sociale, qui traite d'une version Kwakiutl de la geste d'Asdival, structuralisme et écologie, qui convoque la mythologie Bellacoula et Chilcotin, et structuralisme et empirisme. Mythologie et histoire sont le thème central des 5 Massey Lectures présentées à CBC en 1977, donc à la radio canadienne, et publiées en anglais sous le titre Myth and Meaning, dont une seule de ces conférences sera publiée en français, intitulée « Quand le mythe devient histoire » et elle sera publiée dans le magazine littéraire en 1988. La côte nord-ouest est aussi à l'honneur dans la section « Regard sur les objets » de « Regarder, écouter, lire » publiée en 1993. Consacrée à 2 portraits d'artistes Tsimshan et Tlingit, un artiste Tsimshan et un artiste Tlingit, ce chapitre qui fait retour sur l'article de 1943 s'interroge sur les fondements d'esthétique amérindienne. Ensuite, des textes de circonstances, des entretiens, des préfaces ont pour thème la fonction des masques, l'art de la côte nord-ouest et sa renaissance à partir des années 1960. Pour être exhaustif, il faudrait rappeler ce que les analyses du totémisme de la côte nord-ouest par des auteurs comme Goldenweiser ont apporté à la réflexion générale de Lévi-Strauss sur les systèmes de classification dans le totémisme, publié dans le Totémisme aujourd'hui en 1962. Enfin, L'homme nu, le dernier volume des mythologiques et histoires de lynx, dépasse les frontières géographiques stricto sensu de la côte nord-ouest et prennent en considération la mythologie des Amérindiens du plateau. En raison de sa situation économiquement stratégique, cette région se trouve à la confluence de nombreuses traditions, dont certaines proches de la côte nord-ouest. Mais surtout, cette extension au nord-ouest américain s'inscrit dans le droit fil des recherches de Lévi-Strauss sur les mythologiques, au terme desquelles il en est venu à la conclusion que les sociétés appartenant à la famille linguistique Salish, donc celle de la côte nord-ouest et celle du plateau, possède les mêmes grands thèmes mythiques que les peuples sud-américains. L'histoire de lynx trouve son origine dans l'homme nu et poursuit la réflexion entamée sur les questions de dualisme dans la pensée amérindienne. Pour Lévi-Strauss, l'exil américain est une aventure intellectuelle exceptionnelle. C'est là qu'est née la démarche structuraliste à la suite de sa rencontre avec Roman Jakobson à l'École libre des hautes études. C'est là également que sa sensibilité aux arts qu'on appelait alors primitifs s'aiguise au contact de ses amis surréalistes et que se transforme sa manière de voir. C'est là aussi que s'effectue une véritable immersion dans l'univers nord-amérindien. La découverte du monde nord-amérindien procède d'un double décentrement à la fois spatial et temporel. Je cite Lévi-Strauss, « À qui voulait se mettre en quête, souligne-t-il dans New York Post et préfiguratif, il suffisait d'un peu de culture et de flair pour que s'ouvrent dans le mur de la civilisation industrielle des portes donnant accès à d'autres mondes et à d'autres temps. » Fin de citation. La déambulation dans New York ne manquait pas de révéler des spectacles inédits et pleins de surprises, de conduire le promeneur au cœur d'un monde bigarré, tandis que le voyage dans l'univers amérindien s'accomplit par l'intermédiaire de quelques lieux de Manhattan, l'American Museum of Natural History, que j'ai déjà cité, la New York Public Library, le grand magasin Macy et quelques boutiques d'antiquaires sur Madison et la 3e Avenue. C'est en quelque sorte une exploration qui s'effectue à l'arrêt, fondée sur la contemplation des objets des musées et la lecture des textes ethnographiques. New York, c'est aussi l'expérience de plusieurs régimes de temporalité. La plongée dans la littérature américaniste, donc à la bibliothèque publique que Lévi-Strauss fréquente quotidiennement, le renvoie au début du XIXe siècle, à un moment où les Amérindiens habitaient leur territoire et vivaient encore comme leurs ancêtres. Un passé qui était encore plus ancien que celui où les enquêtes avaient été menées par les ethnographes. Les cultures amérindiennes que l'on tenait alors pour quasiment détruites surgissaient dans le monde contemporain par l'intermédiaire des textes, notamment ceux consignés dans les rapports du Bureau of American Ethnology. C'est ainsi, écrit Lévi-Strauss, et je cite, que les cultures amérindiennes, comme ressuscitées, m'étaient rendues présentes et presque tangibles grâce au contact physique que ces livres, écrits et publiés avant leur extinction définitive, rétablissaient entre leur temps et moi. Fin de citation. Disparues, ces cultures, rien n'est moins sûr. Il arrive que la réalité, en dépassant la fiction, libère une ironie dont aucun des partenaires involontaires ne peut se prévaloir. Si, comme il le rapporte toujours dans ce même texte, New York Post et préfiguratif, Lévi-Strauss, et je cite, ne se sentait pas moins remonter les âges quand il allait travailler dans la salle des Americana de la bibliothèque, le voisinage d'un Indien emplumé, vêtu de peau emperlée, qui prenait des notes avec un stylo par cœur, troublait les certitudes et annonçait, en creux, un avenir différent pour les Indiens que celui qui avait été imposé par la violence de la colonisation. Oui, comme l'a remarqué Anne-Christine Taylor dans son article « Don Quichotte en Amérique », Lévi-Strauss a toujours eu une fibre sensible pour les sociétés qui incarnent, et je cite Anne-Christine, « une figure privilégiée de l'esthétique romantique de la ruine », fin de citation, c'est-à-dire des sociétés qui ont vécu dans un passé glorieux, puis ont été réduites sous l'effet des contingences historiques à l'état de quasi-déchéance, comme ce fut notamment le cas des Kadubeo, des Bororo, parmi lesquels a vécu Lévi-Strauss, et auxquels Anne-Christine Taylor adjoint celui des sociétés de la côte nord-ouest. Mais il me semble que le regard porté par Lévi-Strauss sur ces sociétés est un tout petit peu différent, et ce pour deux raisons. D'une part, Lévi-Strauss n'a eu qu'un contact très tardif avec les Indiens de la côte nord-ouest. Il s'est rendu dans cette région à deux reprises, en 1973 et en 1974. Et encore, s'agit-il de rencontres avec des artistes, dont Bill Reed, avec lequel il entretiendra une relation d'amitié, ou encore avec des représentants qu'on peut dire autorisés, qui lui sont présentés par des collègues. Mais Lévi-Strauss, loin de se lamenter sur l'état de fragilité dans lequel ont été précipitées ces sociétés, au contraire, fait le constat d'une grande vitalité de ces cultures, d'un art en pleine renaissance qui n'a rien perdu de sa grammaire et de ses règles formelles et qui, en raison de sa prodigieuse inventivité, explore d'autres formes d'expression. Il ne formulera pas non plus un avis désabusé quand il commentera l'impression qui lui est restée d'une cérémonie, une Guardian Spirit Dance à laquelle il a assisté chez les Salish Musqueam de la banlieue de Vancouver en compagnie de Pierre Maranda, qui peut-être est parmi nous aujourd'hui. En fait, Lévi-Strauss rend hommage à une culture nécessairement hybride qui maintient son identité en conservant des traits de la culture dite traditionnelle et en intégrant des éléments nouveaux. Les spécialistes de la côte nord-ouest s'accordent à dire que l'adaptation de ces sociétés à la modernité n'a pas mis à mal ceux qui constituent le noyau dur d'une idéologie fondée sur la hiérarchie et le prestige, et c'est ce qu'a saisi Lévi-Strauss lors de ses séjours en Colombie-Britannique. D'autre part, Lévi-Strauss ne s'est pas véritablement intéressé aux communautés elles-mêmes, il a au contraire porté son attention à des cultures avec lesquelles il entretient une relation distanciée, médiatisée par une littérature ethnographique qui obère les aléas de l'histoire. Lévi-Strauss a indiqué à plusieurs reprises son admiration pour l'anthropologie américaniste nord-américaine en raison de la qualité des matériaux recueillis par les ethnographes au tournant du XXe siècle. Il fait l'éloge du travail du Bureau of American Ethnology qui a dominé l'organisation de la recherche anthropologique aux États-Unis pendant une vingtaine d'années. Et cette institution, souligne-t-il, a produit, je cite, « des documents inestimables qui rassemblent une masse fantastique de textes indigènes et d'observations sur le terrain ». Les matériaux étaient collectés, rappelons-le, dans le cadre d'une entreprise à grande échelle appelée Ethnologie de sauvetage, qui avait l'ambition de couvrir l'ensemble des peuples amérindiens et qui relevait de plusieurs domaines de recherche qui passaient de la somatologie à l'archéologie en passant par la linguistique, la technologie, la mythologie, etc. Puis, sous l'influence de Boas, les enquêtes de terrain abandonneront la méthode du sampling et viseront à rassembler des données se rapportant à la totalité des phénomènes culturels propres à des sociétés bien individualisées. L'ethnographie américaniste, et boasienne en particulier, met à la disposition du chercheur un ensemble de matériaux bruts qui n'a pas subi l'épreuve de l'interprétation. Boas a accordé une place de première importance au texte parce qu'il recèle, selon lui, des modèles inconscients, mais il considère également que l'étude des textes pour eux-mêmes et en eux-mêmes n'autorise pas une saisie globale des faits culturels. C'est la raison pour laquelle Boas soutiendra que les textes devaient être mis en rapport avec d'autres types de productions, comme les arts plastiques et les rituels, par exemple. Un autre point important mérite d'être mentionné, c'est l'extrême richesse du corpus de mythes et de variantes recueillis par Boas et ses collaborateurs autochtones, publiés en langue vernaculaire et dans leur traduction, organisés en fonction de thèmes et mis en relation avec d'autres faits de la société, comme les techniques et les croyances. Donc, de par leur qualité et leur variété, ces matériaux constituent une banque de données immédiatement mobilisable par Lévi-Strauss. Bien que les orientations théoriques de Boas et de Lévi-Strauss soient différentes, il n'est pas absurde de penser que le projet de Lévi-Strauss trouve dans l'ethnologie boasienne tous les moyens de se déployer. Et à cet égard, je prendrai deux exemples. La geste d'Azival et La voix des masques. Bon, pour ce qui concerne la geste d'Azival, cet article est une illustration exemplaire de la méthode d'analyse des mythes telle qu'elle avait été définie plus tôt, comme je l'ai dit, dans l'article de 1955, dans le texte « La structure des mythes » publié en 1955. Pour mettre en œuvre sa démonstration, Lévi-Strauss dispose de 4 variantes d'un mythe Tsimshan recueilli par Boas, qui met en scène un jeune chef pêcheur de saumon nommé Azival et dont le nom se traduit par « celui qui s'est trompé ». Pour éclairer les données du mythe, Lévi-Strauss fait appel à un ensemble d'informations ethnographiques se rapportant à des savoirs, des pratiques et des systèmes de représentation locaux. En isolant plusieurs niveaux pertinents, géographiques, écologiques, économiques, sociologiques et cosmologiques, qu'il appellera ensuite « code », il met en évidence une homologie entre des oppositions relevant du monde naturel, comme haut-bas, amont-aval, et des oppositions d'ordre sociologique, patrique matrimoniale, règles de résidence par exemple. Et c'est en convoquant les matériaux de la côte nord-ouest que Lévi-Strauss administre la preuve que l'analyse structurale des mythes ne se réduit pas à un pur formalisme, mais qu'elle s'appuie sur les détails ethnographiques pour donner sens à tel ou tel élément du mythe. Donc, donc c'est l'utilisation de ces matériaux ethnographiques qui ont une grande valeur méthodologique. Dans La voix des masques, sans le dire explicitement, Lévi-Strauss revient à l'analyse structurale des formes, méthode qu'il a appliquée, comme je l'ai dit, pour la première fois dans son étude consacrée au dédoublement de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique, où il examine les rapports entre éléments graphiques, c'est-à-dire le décor, et éléments plastiques, c'est-à-dire le support, qu'il soit par exemple le corps ou le visage, à la lumière du cadre social et du statut de la personne, ce qui l'amène à conclure qu'il existe une relation nécessaire entre style et organisation sociale. Dans La voix des masques, il revient sur la question de style et de son identification en associant à l'analyse structurale des formes, celle des mythes, il se pose des questions sur un type de masque de la côte nord-ouest, et bien évidemment, l'emploi ne peut être résolu qu'après, disons, cette vaste exploration de l'analyse structurale des mythes. S'interrogeant sur la forme singulière d'un type de masque de la côte nord-ouest, Lévi-Strauss développe l'idée selon laquelle, pas plus que les mythes, les masques ne peuvent s'interpréter en eux-mêmes et pour eux-mêmes en objets séparés. L'enquête sera étendue à un autre type de masque. Donc, dans le premier temps, il s'agit du masque Swaiwe des Selish. Ensuite, cette enquête sera étendue à un contre-masque, le masque Dzonokwa des Kwakwaka'wakw ou des Kwakiut, qui présente des caractéristiques plastiques en tout point opposées à celle du masque Swaiwe. Et j'aimerais que vous écoutiez Lévi-Strauss présenter sa démonstration à l'occasion d'une conférence qu'il a donnée en Colombie-Britannique en 1973.
And then going back to the Swaiwe mask, the question I put to myself was, I cannot understand the mask taken isolated as something apart. But is there somewhere nearby a mask which, from a stylistic point of view, could be considered as being the symmetric of the Swaiwe mask, having all the same properties, but the other way around, if I may say so. And immediately, the Tsonokoa mask of the Kwakiut Indian, which are close neighbor to the Salish, that is this mask, came to my attention. Why? Well, first of all, of course, there was the problem of the protruding eyes. And it is very striking that the Tsonokoa mask have not protruding eyes, but deep-set eyes. That is exactly the opposite. Not always, as a matter of fact, deep-set eyes, sometimes slit eyes, but which means, in both cases, because the mythological material is quite, and the ritual too is quite clear in this respect, that the Tsonokoa is either blind or sleepy, does not see well. And then it was possible that out of the opposition a meaning can be extracted, that is, if deep-set eyes or slit eyes means blindness, then perhaps protruding eyes would mean the opposite of blindness, that is, clear sight. This is not all. See, the Swaiwe mask, well, of course...
Et bien sûr, ce n'est pas tout. Ce n'est pas le tout, oui, ce n'est pas tout. Tout comme le mythe donc, qui prend sens une fois replacé dans le groupe de ces transformations, un type de masque considéré d'un point de vue plastique fait écho à un autre type de masque dont il inverse et transforme certaines caractéristiques formelles. La mise en lumière d'une logique des formes n'est donc pas suffisante pour appréhender la signification du masque. Celle-ci doit être établie à partir de la mise en relation de faits mythiques et de fonctions sociales ou religieuses, elles-mêmes considérées dans le même rapport de transformation que la plastique des masques en eux-mêmes. Lévi-Strauss nous montre donc qu'il ne saurait y avoir de compréhension d'une œuvre sans la prise en compte de la totalité des niveaux sociaux et culturels des sociétés dont cette œuvre est issue. Alors que la voix des masques prend place dans un contexte ethnographique singulier, l'analyse qui est conduite dans l'ouvrage revêt une valeur générale dans la mise en œuvre d'une méthode pour définir la nature d'un style. Mais dans le même temps, au-delà de la leçon magistrale qui nous est proposée, on peut s'interroger sur le rendement de cette analyse appliquée à d'autres contextes ethnographiques ou même à d'autres types de masques de la côte nord-ouest. En conclusion, je voudrais dire que si j'ai insisté sur l'utilisation par Lévi-Strauss des matériaux de la côte nord-ouest dans la mise en œuvre de son projet théorique, je voudrais conclure, donc je voudrais dire que l'appréciation par les ethnologues de terrain de la méthode structurale, je voudrais parler de l'appréciation par les ethnologues de terrain de la méthode structurale appliquée à ces matériaux. La méthode structurale est introduite au Canada dans les années 1970, notamment grâce à Pierre Maranda, qui l'a fait connaître aux ethnologues de l'Université de la Colombie-Britannique, où sont engagées de nombreuses recherches sur les Indiens de la côte nord-ouest. Les travaux qui s'en inspirent sont peu nombreux, qu'il s'agisse de domaines de la mythologie ou de l'art, ou celui de l'art. Les anthropologues qui se prévalent de la démarche structuraliste l'utilisent souvent à mauvais escient ou dans une forme inaccomplie. Parmi les travaux de Lévi-Strauss, c'est la Geste d'Asdival, publiée en anglais en 1967, qui a été le texte le plus commenté et qui a favorisé des recherches nouvelles sur les systèmes de parenté. Plusieurs chercheurs, forts des données qu'ils avaient recueillies sur le terrain, ont mis en doute la validité de l'interprétation de Lévi-Strauss, selon laquelle, donc dans la Geste d'Adival, le mariage entre cousins croisés permettait, au sein de lignées rivales, de résoudre les tensions entre filiation matrilinéaire et résidence patrilocale. Mais, évidemment, Lévi-Strauss, c'est la solution que proposait le mythe. Et, en fait, Lévi-Strauss, il met en évidence que les mythes décrivent des pratiques qui ne sont pas forcément, qui peuvent être inverses de celles de la vie quotidienne. Donc là, il y avait comme une sorte d'incompréhension entre, la démonstration que voulait faire Lévi-Strauss et la manière dont elle a été reçue par les ethnologues de la côte nord-ouest. Des études récentes ont montré la force de l'intuition de Lévi-Strauss, la permanence et la pertinence des choix, des matériaux utilisés justement dans cette démonstration. En cantonnant les travaux de Lévi-Strauss dans un américanisme trop étroit, les spécialistes de la côte nord-ouest ont peut-être fait choix d'ignorer l'apport méthodologique de l'anthropologie structurale à l'anthropologie en général. Je vous remercie.